France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 juin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la première étape du Tour de France version Emmanuel Macron, et c'est dans le Lot que le chef de l'État entend renouer le dialogue avec les Français. Saint-Cyr, La Popie, Martel, Cahors, la douceur du Sud-Ouest pour lancer une campagne. On fait étape avec vous, Agnès, après les autres titres.
La fin de l'ENA actée ce matin au Conseil des ministres. Comment faciliter la vaccination des personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet? La mairie de Paris, dans le 18e, met en place un guichet spécial. C'était un massacre aux États-Unis. Joe Biden reconnaît les violences racistes de tout cela il y a 100 ans. C'est le moment d'enfourcher votre vélo. Les 1500 km de piste entre Roscoff et Dunkerque sont achevés. Et puis les sorties ciné du mercredi avec Les Hommes de Lucas Bellevaux ou La mémoire douloureuse de la guerre d'Algérie.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Il est apparu sur la scène médiatique en même temps que le virus, avec sa chloroquine comme remède miracle. Génie pour les uns, charlatan dangereux pour les autres. Qui est vraiment Didier Raoult? Les journalistes. Les journalistes Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin, en tant qu'été, elles seront avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. On se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le député européen La République En Marche, conseiller politique du président de la République, Stéphane Séjourné. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
France Inter. Le Lot ou la ruralité heureuse, selon les mots d'Emmanuel Macron. Un de ces lieux, dit-il, qui permettent de comprendre ce qui est accepté en France et ce qui ne l'est pas. L'objectif du chef de l'État est bien de prendre le pouls des Français à un an de la présidentielle. Et alors que ses principaux adversaires, Marine Le Pen et Xavier Bertrand, sont concentrés sur les régionales. Le Lot, donc, point de départ de ce Tour de France d'une dizaine de dates qui va se poursuivre jusqu'en juillet. C'était à Souillac qu'en janvier 2019, le chef de l'État a lancé le grand débat post-gilet jaune. Cette fois, rendez-vous est pris à Saint-Cyr-la-Popie, un décor rêvé pour un premier de cordée. Reportage de Caroline Félix.
Saint-Cyr-la-Popie, c'est une carte postale, un village tout en pierre perché en haut d'une falaise. Emmanuel Macron y sera reçu par Gérard Miquel, le maire La République En Marche.
Il est chez lui à Saint-Cyr. Il sera bien accueilli, je n'en doute pas.
C'est la quatrième fois que le maire accueille le président, deux fois en 2016 pendant la campagne et une fois en 2019 lors du grand débat.
Il aime le Lot, il aime ces zones rurales où les gens lui tiennent un discours de vérité, sans embâge.
Emmanuel Macron va donc prendre le pouls d'un village qui a voté à 77% pour lui au second tour en 2017. Delphine, une habitante.
C'est pas là qu'il va se faire le plus chahuter. Peut-être aussi pour ça qu'il vient là. C'est plutôt des retraités aisés qui viennent ici. Pour démarrer sa campagne, c'est plutôt un département où il risque pas grand-chose, en fait. C'est tranquille, ouais.
Il va donc déambuler, discuter avec des commerçants du village. Ceux que j'ai rencontrés ont peu de choses à reprocher à Emmanuel Macron. Ce sont surtout des saisonnier dans un village ultra touristique, plutôt épargné par la baisse de fréquentation liée au Covid. L'année dernière, Sylvie a presque compensé le manque d'étrangers grâce aux Français.
L'année dernière, en effet, il y avait du monde, on a travaillé, puis ça rattrape pas tout. Mais au moins, on a pu passer un petit cap, et puis en espérant que cette année, on fasse pareil.
En tout cas, tous les commerçants me l'ont dit, une visite médiatique d'Emmanuel Macron, ça fait toujours de très belles retombées touristiques.
Le reportage de Caroline Félix. Emmanuel Macron doit arriver à Saint-Cyr-la-Popie en fin d'après-midi et sera demain à Martel puis à Cahors pour une rencontre avec des élus locaux. Se reconnecter avec les Français, une obligation pour Emmanuel Macron, l'énarque, cette élite accusée d'être coupée de la réalité. L'ordonnance qui entend réformer profondément l'ENA doit justement être présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Au 1er janvier prochain, l'École nationale d'administration aura vécu et cédé sa place à l'Institut national du service public. Alors, qu'est-ce qui va changer véritablement? Élément de réponse avec Yael Gauz.
Même ville, Strasbourg, même locaux, mais une feuille de route complètement revue. Fini la course aux notes et aux classements, explique-t-on au ministère de la fonction publique. L'INSP, c'est d'abord un tronc commun aux 13 écoles du service public, de la magistrature aux cadres hospitaliers, des ingénieurs en travaux publics aux administrateurs territoriaux, avec à la sortie un même diplôme, celui d'administrateur d'État, et une seule DRH pour piloter les carrières. L'ordonnance met fin à l'accès direct au grand corps. On ne verra plus de jeunes propulsés à des postes à haut toute responsabilité, sans avoir passé au moins 5 ans sur le terrain. Fini les nominations à vie de préfet ou d'ambassadeur. Proximité et plus grande représentativité, c'est l'ambition. Aujourd'hui, à l'ENA, moins d'un élève sur 5 a un parent ouvrier, agriculteur, artisan ou chômeur. D'où la réforme en parallèle de l'accès au concours d'entrée. Un scalp offert aux gilets jaunes, la politisation du service public, disent les détracteurs de la réforme. Non, une reconnexion à la société, répond l'Élysée. L'ouverture à de nouveaux profils pour éviter la coupure entre élite et citoyens.
Et au menu du Conseil des ministres également ce matin, l'annonce d'un troisième et dernier référendum en Nouvelle-Calédonie. Référendum d'autodétermination qui aura lieu en décembre, peut-être le 12. Quel que soit le résultat, s'ouvrira alors une période de transition de 2 ans.
Il est 7h05, Agnès, plus de 26 millions de primo-vaccinés.
Cela représente la moitié des Français de plus de 18 ans. Et depuis l'ouverture lundi de la campagne de vaccination à tous les adultes, les plateformes de rendez-vous font le plein. 427 000 rendez-vous pris en une journée sur Doctolib. Mais il y a aussi celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet et qui n'arrivent pas à prendre rendez-vous. C'est pour eux que la mairie du 18e arrondissement à Paris a ouvert un guichet particulier. Faustine Calmel s'est rendue sur place. Reportage.
Alors, installez-vous.
Une file d'attente d'une dizaine de personnes s'étire dans le hall d'entrée de la mairie.
Vous êtes disponible le mardi ?
Oui. Un rendez-vous enfin pour Vimel qui doit retourner au Bangladesh cet été.
Doctolib, il n'y a pas de numéro. De téléphone, y a pas.
Il a bien tenté de passer par la plateforme, mais explique que son français rudimentaire ne lui permet pas de tout comprendre sur Internet. Une connexion que son voisin, 70 ans, n'a même pas.
Non, je n'ai pas l'Internet, mais c'est très 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 compliqué.
Mais dans la file, certains savent pourtant bien se connecter.
Oui, j'ai essayé, ça fait une semaine. Mais je ne trouve pas le rendez-vous. Voilà, et je viens ici.
Il y a notamment quelques personnes qui attendent dans la file en jouant avec leur smartphone.
Juliette Théon est la directrice générale des services à la mairie du 18e.
Voilà, donc c'est toujours un petit peu contrariant de voir qu'ils sont très très à l'aise sur leur smartphone. Mais je comprends en même temps, je comprends qu'ils n'ont pas forcément la patience, ils ont des contraintes et ils veulent avoir un créneau très vite. Donc ils utilisent ce guichet, mais encore une fois, qui n'est pas fait pour ça au départ.
Le guichet propose environ 800 créneaux par semaine, ciblés pour les personnes âgées, éloignées du numérique ou non francophones.
Et puis c'est cette semaine que la Haute Autorité de Santé doit se prononcer sur la vaccination des 12-15 ans, déjà approuvée par l'Agence européenne du médicament avec le vaccin Pfizer-BioNTech. La pandémie en Australie avec un couvre-feu prolongé d'une semaine à Melbourne en raison de 6 nouveaux cas. L'Australie mène une lutte serrée contre la propagation du Covid-19 sur son sol avec un contrôle drastique de ses frontières et la mise en place de mesures rapides de restrictions dès l'apparition de nouveaux cas. Aux États-Unis, la volonté de Joe Biden d'affronter les pages les plus sombres de l'histoire du pays. Il était ainsi hier à Tulsa, dans l'Oklahoma, premier président à venir y commémorer l'un des pires massacres racistes de l'Amérique. C'était dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1921, il y a tout juste un siècle. Le quartier noir et prospère de Greenwood avait été presque entièrement rayé de la carte. Ses habitants forcés de tout quitter ou massacrés par une foule blanche armée. Correspondant signé Loïc Loury.
Ce n'était pas une émeute, c'était un massacre, dit Joe Biden, le président américain, longuement applaudi par les descendants de victimes de Tulsa, venus l'écouter en présence de 3 survivants centenaires. Désormais, leur assure-t-il, votre sort sera connu de tous. Pendant bien trop longtemps, l'histoire des événements qui se sont produits ici n'a été que murmurée, drapée de ténèbres. Mais que cette histoire ait été entourée de silence ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu, et seule la vérité peut nous permettre de guérir. Une reconnaissance des faits en attendant plus pour combler le fossé racial aux États-Unis, car si l'administration promet des mesures économiques, rien n'a encore été acté, faute de majorité suffisante, et les textes s'empilent au Congrès contre les violences policières ou pour garantir le vote des minorités. Tout cela dans une Amérique, selon Joe Biden, où la haine n'a pas été vaincue. Le terrorisme des suprémacistes blancs est la menace la plus mortelle à laquelle nous soyons confrontés. Pas l'État islamique, pas Al-Qaïda, les suprémacistes blancs. En début d'année, le drapeau confédéré avait d'ailleurs flotté à Washington lors des émeutes historiques du Capitole. New York, Loïc Loury, France Inter.
Voyager en train en France cet été devrait coûter moins cher. La SNCF a présenté hier sa nouvelle grille des tarifs avec une carte annuelle de 49 euros. Les prix sont encadrés et les TGV accessibles selon la direction. Le détail dans le journal de 7h30. D'autres préféreront partir à bicyclette. Les pistes cyclables se multiplient en ville et en bord de de mer. La vélo maritime est en passe d'être achevée. 1500 km entre Roscoff et Dunkerque. Un parcours bien iodé via le Cap Fréhel, le Mont-Saint-Michel, Étretat et la baie de Somme. Tour d'horizon signé Delphine Evenoux.
Il ne reste plus que quelques panneaux de signalisation à installer et les dernières données GPS à publier pour que la route soit sans interruption. Pour faire connaître cet itinéraire, des ambassadeurs sillonnent le parcours, comme Clément, sa compagne et deux amis, en ce moment dans le Cotentin. Ils se sont élancés de Saint-Malo il y a 10 jours, direction Étretat, 800 km, les yeux grands ouverts.
On va avoir des pistes cyclables qui peuvent être par exemple le long d'un fleuve. On a passé en fond de baie du Mont-Saint-Michel, où là on a des paysages avec des prés salés, etc. La vallée de la Vire, où là c'est vallonné, il y a beaucoup de pâturages, et puis tous les plages du débarquement, donc un parcours chargé d'histoire. On s'ennuie jamais, quoi. C'est toujours une nouvelle découverte.
Ce qui a décidé Clément et ses coéquipiers, c'est le contexte pandémique, la difficulté à voyager à l'étranger. Et ils ne sont pas les seuls. Le site internet de la Vélo Maritime enregistre de plus en plus de connexions. Agathe Dodibon, coordinatrice de cet itinéraire.
La crise sanitaire a eu un vrai impact. Elle a donné envie à beaucoup de personnes de se mettre aux vacances à vélo et à cette forme d'itinérance à vélo qui est assez contraignante en termes d'organisation. Donc on voit beaucoup de néo-pratiquants, donc des personnes qui n'avaient jamais fait d'itinérance à vélo et qui s'y mettent.
Les plus courageux peuvent même poursuivre jusqu'à Kiev, en Ukraine, puisque la Vélo Maritime est intégrée à l'Eurovélo 4, une route de 4000 km.
La route de l'Europe pour les hommes de Didier Deschamps qui passent ce soir par le Pays de Galles en match amical de préparation à l'Euro. La rencontre a lieu ce soir à Nice, d'ores et déjà marquée par le retour de Karim Benzema, que l'on n'avait pas vu en bleu depuis plus de 5 ans. Et puis la fin du premier tour à Roland-Garros, bilan très très médiocre pour les Français. Sur les 29 tricolores engagés, seuls 7 disputeront le deuxième tour, 4 femmes, 3 hommes. Il n'y a jamais eu si peu de Français dans l'histoire du tournoi au second tour. Et pour Richard Gasquet, la prochaine rencontre s'annonce difficile. Ce sera contre Raphaël Nadal. Enfin, c'est une guerre dont ils ne sont jamais vraiment revenus. L'Algérie et ses blessures, délicat sujet abordé aujourd'hui dans le nouveau film de Lucas Bellevaux, Des Hommes, d'après le roman de Laurent Mouvignier. Un récit poignant sur la mémoire et les souvenirs qui met en scène Gérard Depardieu et Jean-Pierre Darroussin dans le rôle de deux anciens soldats qui ont bien du mal aujourd'hui encore à exprimer le traumatisme qu'ils ont vécu. Corinne Pellissier.
Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent.
Ils pensaient à l'époque remplir leur devoir, mais tous le répètent aujourd'hui, quel que soit le lieu ou l'année où ils ont servi.
Non.
Et les faits, ils sont où ?
Je ne ferai jamais.
Il n'y a pas de mots pour raconter ce qu'ils ont vécu, pas de nom pour définir cette guerre qui ne s'est jamais terminée et qui continue de déchirer les familles. Feu de Bois et sa sœur, Gérard Depardieu, Catherine Fraud et leur cousin Rabu, incarné par Jean-Pierre Darroussin. L'incontrôlable, le discret et celle qui préfère oublier. 40 ans de non-dit, de rancœur et de culpabilité qui finiront dans le film par exploser avec plus ou moins de subtilité.
Ils sont tous là, à part les morts.
Bernard, arrête.
Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille.
Tais-toi.
On apprécie en revanche le travail autour de la question de l'identité, des points de vue, l'utilisation des archives. Il aura fallu 10 ans à Lucas Bellevaux pour adapter le roman de Laurent Mauvignier, un passé encore tabou, peu souvent abordé au cinéma, qui continue de fasciner autant qu'il divise.
On peut même pas l'imaginer. Les hommes avaient fait ça.
Des hommes de Lucas Bellevaux avec donc Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin et Catherine Fraud. C'est un film inter qui sort aujourd'hui sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le Zoom avec Olivier Mannoni, l'homme qui a traduit Mein Kampf.